Accent d'Europe, Catherine Roland.
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you.
Bonjour à tous, du glamour, des paillettes, des endroits paradisiaques, voilà l'image que véhiculent les croisières en mer, comme la célèbre série américaine Love Boat. D'ailleurs, en Europe, leur succès ne se dément pas. Plus de 7 millions de passagers en 2018, 20 milliards d'euros de retombées économiques. Mais il y a un sérieux revers à la médaille, les croisières se démocratisant, elles polluent de plus en plus. C'est le rapport alarmant de Transport et Environnement qui rassemble une cinquantaine d'ONG. Après les Caraïbes, c'est la Méditerranée qui est la plus touchée par la pollution au fioul lourd, l'un des carburants les plus sales au monde. L'Italie, la France, la Grèce et en tout premier lieu l'Espagne sont les plus exposés à cette pollution au dioxyde de soufre. Dans la péninsule ibérique, c'est Barcelone qui souffre le plus. La rançon du succès pour la capitale catalane qui attire 4,5 millions de touristes par an. Aujourd'hui, les associations écologistes et scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Reportage Élise Gazangel.
Tous les jours, le port de croisière de Barcelone vit un balai incessant de bus et taxis qui déposent les touristes venus passer quelques heures dans le centre déjà assailli. Durant les 4, 5 ou 6 heures que durent ces escales en moyenne, les bateaux à quai continuent de faire tourner leurs moteurs qui fonctionnent au fioul lourd afin de maintenir leurs infrastructures, climatisation, restaurants ou même patinoires. Ces villes flottantes sont désormais la cible des associations écologistes. L'ONG Transport and Environment a rendu publique une étude début juin dans laquelle elle dénonce la pollution des bateaux de croisière. Avec 4,5 millions de passagers par an, Barcelone est le port le plus important et de fait, selon l'ONG, le plus pollué d'Europe. Pour Maria García, porte-parole de Ecologistas en Acción et membre de l'ONG internationale, les croisières augmentent jusqu'à 20% la pollution respirée par les habitants des quartiers voisins dans la plus grande impunité et opacité.
Les autorités publiques essaient en fait de cacher cette situation car il y a des intérêts privés en jeu. Dans notre cas, pour les bateaux de croisière, les intérêts du tourisme de masse génèrent d'énormes flux de capitaux.
Xavier Querol, scientifique et chercheur spécialisé en pollution atmosphérique, confirme l'exception faite à cette industrie.
Je suis tout à fait d'accord avec cette critique sur la pollution des bateaux. Les croisiéristes ont toujours été surprotégés et n'ont jamais été forcés à grand-chose. Les paquebots sont donc presque trop vieux, écologiquement obsolètes.
Pour lui, les autorités doivent prendre des mesures urgentes.
Il ne s'agit pas de faire couler le système, mais il faut être sérieux et obliger cette activité industrielle aux mêmes restrictions que les autres types de transport.
Tous les jours, un maximum de 7 bateaux pouvant accueillir jusqu'à 9000 passagers dégagent dioxyde de soufre, oxyde de nitrogène, mais aussi microparticules. À Barcelone, selon l'ONG, les 105 bateaux passés par le port en 2017 ont relâché 5 fois plus de dioxyde de soufre dans l'atmosphère que tout le parc automobile de la ville. Mais selon un communiqué de CLIA, la puissante association regroupant les plus grosses compagnies de croisière, cette étude n'a aucune base scientifique. L'activiste se défend et contre.
Pour nous, ce n'est pas une réponse. On adorerait qu'ils nous contredisent avec des chiffres sérieux et qu'ils nous tranquillisent en démontrant que les croisières sont fantastiques pour l'air que nous respirons.
De leur côté, les autorités portuaires de Barcelone avouent avoir reçu avec surprise cette étude. Jordi Vila, responsable environnement du port de la ville, reconnaît une préoccupation globale et explique comment ils luttent contre la pollution.
Notre marge de manœuvre est très petite pour agir et pour obliger les bateaux à essayer d'être moins polluants. L'outil le plus efficace qu'on peut mettre en œuvre, c'est le système de bonus. On récompense les bateaux qui adoptent des systèmes de réduction d'émissions.
Au total, un bateau dit propre peut recevoir jusqu'à 80% de réduction sur les taxes portuaires en bonification. Parallèlement, le port développe l'électrification des quais prévus pour 2026 pour que les bateaux puissent s'y brancher durant leur escale et les incite à utiliser le gaz naturel comme alternative. Pour le scientifique, cette solution est trop lente.
Ils veulent la transition au gaz naturel, mais c'est trop long. Quand on parle de qualité de l'air, on ne peut pas prévoir d'ici à 30 ans ou à 10 ans. On doit prévoir d'ici à 5 ans maximum.
Mais de l'aveu du responsable du port, le plus gros moyen de pression sur les compagnies de croisière reste les touristes eux-mêmes.
C'est difficile, très difficile de faire changer la politique des grosses compagnies de croisière. Mais dans le même temps, ces entreprises sont très sensibles à certains arguments parce que leurs marchandises, ce sont les touristes. Et ces derniers sont devenus beaucoup plus exigeants en termes de normes écologiques.
Selon l'étude de l'ONG, la plus grosse compagnie de croisière a émis 10 fois plus de dioxyde de soufre que tous les véhicules qui circulent en Europe. Transport and Environment demande aussi que les règles environnementales qui régissent la Baltique, la Manche et la mer du Nord s'appliquent à la Méditerranée et qu'on oblige tous les bateaux à consommer un carburant limité à 0,1% de soufre. Les principaux croisiéristes, eux, se sont certes engagés à réduire de 40% leur empreinte carbone d'ici à 2030, sauf que la nouvelle réglementation de l'Organisation Maritime Internationale obligera dès 2020 tous les bateaux à utiliser un fuel de 0,5% de soufre maximum.
La Méditerranée est en danger et la principale menace, c'est nous. Nous qui sommes toujours plus nombreux à nous bousculer sur ces rives.
La pollution des immenses paquebots qui croisent en Méditerranée. Le documentariste Alexis Maran la pointe bien dans son enquête très fouillée diffusée sur Arte. La Méditerranée va-t-elle passer l'été ? Après des mois d'investigation, son constat sur cet enjeu écologique est très sombre. La Grande Bleue risque de ne pas survivre aux excès du bétonnage, de la pression démographique, de la pollution et du tourisme de masse. Alexis Maran.
On est déjà à 300 millions de touristes qui chaque année viennent sur les rives de la Méditerranée. Donc c'est considérable, et quand on pense qu'il y en aura 200 millions de plus dans les 20 années à venir, dans les 15 années à venir même, c'est assez terrifiant. Et on peut imaginer aussi toutes les conséquences que ça peut avoir effectivement en termes de bétonnage supplémentaire et aussi à travers toutes les autres infrastructures qui peuvent être créées, et notamment autour de la croisière, puisque le business en fait de la croisière s'est considérablement développé en Méditerranée, ce qui n'était pas le cas, contrairement à ce qu'on pourrait aussi imaginer il y a 20 ans. En 20 ans, le nombre de croisiéristes s'est multiplié par 4. Donc ça donne une idée de ce nouvel Eldorado que représente la Méditerranée pour les compagnies de croisière. C'est considérable, et ça passe aussi par le développement des croisières low cost, c'est-à-dire ces énormes paquebots qu'on voit et qui sont notamment fabriqués d'ailleurs sur les chantiers de Saint-Nazaire, et qui permettent aux compagnies de cibler une clientèle beaucoup moins fortuné qu'avant, mais qui peut se payer des croisières parce que on est dans un principe de low cost, de croisière de masse avec des paquebots qui peuvent accueillir beaucoup plus de monde.
Oui, des milliers de personnes. Alors, vous avez pris l'exemple particulièrement éloquent de l'île de Majorque avec ses paquebots immensément polluant. Avec cette image, c'est aussi polluant qu'une petite centrale électrique.
Oui, en ce qui concerne les plus gros paquebots, c'est vrai qu'il faut imaginer quand même que quand vous avez un paquebot qui peut accueillir jusqu'à 6000 ou 7000 passagers, vous avez un équipage qui représente presque la moitié des passagers, donc ça veut dire qu'on est un bateau qui a près de 10 000 personnes à bord. Et en plus, il y a toutes ces attractions, parce qu'aujourd'hui, les paquebots modernes sont de véritables parcs d'attractions flottants. Donc vous imaginez les manèges, les casinos, les boîtes de nuit, les salles de spectacle, des patinoires, des simulateurs de surf, enfin toutes ces choses, plus évidemment la climatisation et tout le reste. Vous imaginez la production et la consommation électrique que ça peut représenter. Tout ça, pour l'instant, est principalement encore généré par des moteurs qui fonctionnent au fioul, voire au fioul lourd, avec une teneur en plomb et en matière toxique énorme qui dégage énormément de particules fines. Et même s'il y a des mesures qui ont été prises pour, à terme, parvenir à faire fonctionner ces paquebots avec des carburants moins polluants, on en est encore aujourd'hui à un stade très très polluant.
Oui, ça se déverse dans la mer, mais aussi dans l'air, et donc ça provoque des maladies chez les gens, évidemment.
Ça provoque des maladies, déjà, ce qui est assez fou, c'est que quelque part les propres passagers des paquebots sont intoxiqués. Il y a eu des tests qui ont été effectués à bord de gros paquebots, où on se rend compte que sur les ponts supérieurs des paquebots, là où on est le plus près des cheminées, il y a un taux de particules fines qui est complètement vertigineux et qui se trouve en plus à l'endroit où les gens en général font leur footing sur les paquebots. Donc vous imaginez, au fond du sport, donc c'est complètement délirant. Mais surtout, ces paquebots, lorsqu'ils sont présents lors des escales, intoxique aussi les riverains de tous ces ports de plaisance qui se sont énormément développés en Méditerranée, puisque tout le monde veut attirer la manne des paquebots et des touristes de croisière, parce que évidemment c'est une source de croissance. Et en même temps, les gens, les riverains sont intoxiqués par la présence de ces paquebots. On a vu à Marseille récemment des riverains qui ont porté plainte parce que il y a une recrudescence des taux de cancer à proximité du port.
Certains pays se sont lancés dans de vastes opérations immobilières. Alors vous prenez l'exemple du Monténégro et de la baie de Kotor, où là tout s'allie, le pouvoir autoritaire, la corruption, la mafia.
L'appât du gain est toujours plus fort, malheureusement, que la nécessité de préserver l'environnement. Au Monténégro, c'est particulièrement saillant parce que c'est un État un peu, effectivement, autoritaire, qui est contrôlé par un président omnipotent. Et ils ont décidé, eux, de miser sur un tourisme de luxe, des résidences de luxe, qui font que le Monténégro, qui était jusque-là vraiment à l'abri des sentiers touristiques ou réservé à quelques initiés, entre guillemets, est en train de devenir une destination massive pour notamment les personnes fortunées de Russie, d'Orient et puis d'Europe. On est dans une politique d'État avec de forts soupçons de corruption et qui fait que le Monténégro est en train vraiment de se lancer tête baissée dans un bétonnage qui est très préoccupant, parce que c'est vrai que c'est un peu un des derniers paradis, un des derniers bijoux de la Méditerranée qui était resté assez préservé et qui à son tour est en train de basculer dans le bétonnage.
Alexis Maran qui a réalisé La Méditerranée va-t-elle passer l'été? L'enquête est encore visible sur arte.tv. Le Monténégro avec sa magnifique baie de Kotor, la baie qui est donc vendue au plus offrant. L'an dernier, plus de 500 000 touristes ont débarqué des paquebots pour visiter le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Conséquence, une pollution terrible et peu de retombées économiques pour la petite ville fortifiée de 1000 habitants. Simon Rico.
En 2018, 415 paquebots de croisière ont accosté dans le petit port de Kotor, la perle du Monténégro, située tout au fond des fameuses bouches du même nom, cette immense ria longue de plus de 20 km. À leur bord, plus d'un demi-million de touristes, c'est-à-dire plus de 500 fois la population intramuros de la petite ville fortifiée. Le site classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1979 est aujourd'hui directement menacé par la pollution massive qu'engendrent ces géants des mers. Depuis quelque temps, les riverains constatent notamment la formation de nuages d'un genre particulier au-dessus des bouches. Il serait la conséquence de l'utilisation de pétrole lourd auquel certains paquebots ont recours à cause de son très faible coût. Sans parler du rejet de milliers de litres d'eau usée dans cette mer presque fermée et peu profonde, ni des ravages de leurs immenses ancres sur les fonds marins labourés en continu. Difficile néanmoins d'établir avec certitude l'impact environnemental de l'explosion du nombre de bateaux de croisière dans les bouches de Kotor. Aucune étude n'a été menée pour le moment. À quelques dizaines de kilomètres plus au nord, la ville croate de Dubrovnik a fini par prendre des mesures drastiques pour limiter l'invasion de ces villes flottantes. À partir de 2020, le nombre de passagers autorisés à accoster sera divisé par deux, passant de 8000 à 4000 par jour. Pour le moment, ni la mairie de Kotor, ni les autorités monténégrines n'ont fait part de leur volonté de légiférer sur ce dossier, malgré les alertes des rares organisations écologistes locales et les mises en garde timides jusqu'à présent de l'UNESCO.
Dans l'Arctique aussi, l'arrivée de ces immenses bateaux de croisière commence à poser de sérieux problèmes. Certes, le Grand Nord est à la mode, découverte de la banquise, aurore boréale, promenade en chien de traîneau. Les touristes en quête d'étendues encore immaculées et de sensations fortes sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir un environnement fragilisé. Leader sur le marché des croisières d'expédition, le Norvégien Hurtigruten et son PDG Daniel Skjeldalm se battent, eux, pour imposer une réglementation stricte dans la région. Anne-Françoise Hiver.
Imaginez un paysage de neige et de glace. C'est la fin du mois de janvier. Un immense bateau de croisière vient d'arriver dans le port de Tromsø, la plus septentrionale des villes norvégiennes. Des milliers de touristes envahissent ces ruelles. Un repas dans un restaurant local, un peu de shopping, puis tout le monde repart, direction le port de Longyearbyen sur l'archipel norvégien du Svalbard, à l'est du Groenland. Le patron de la compagnie Hurtigruten, Daniel Sheldam, est en colère. Ses bateaux circulent dans la région depuis 125 ans. Longtemps, ces express côtiers étaient le seul contact entre certains petits villages de l'Arctique et le reste du monde. En 1996, la compagnie a lancé ses premières croisières d'expédition. Aujourd'hui, Hurtigruten est le leader sur le marché avec 500 000 passagers par an. Mais de nouveaux acteurs débarquent constamment.
Il y a beaucoup de marge de croissance, mais il faut que ce soit une croissance durable, pas basée sur des masses de touristes. Nous devons éviter ces énormes bateaux de croisière. Par exemple, à Longyearbyen, où vivent 1900 personnes. Quand un bateau arrive avec 6000 passagers qui envahissent la petite communauté, ce n'est vraiment pas beau à voir, surtout qu'ils dépensent peu d'argent et que leur présence nuit aux entreprises sur place, dont les offres sont du coup beaucoup moins attirantes.
Les bateaux de Hurtigruten accueillent 500 passagers maximum. Pour Daniel Sheldalm, c'est la limite, mais la taille des navires n'est pas le seul problème, précise-t-il.
Nous naviguons dans ces endroits fantastiques à côté de bateaux qui ont 8000 personnes à bord, remplis de fuel lourd, du heavy fuel oil. C'est le pire qu'on puisse trouver. C'est toxique. Et c'est sans parler des risques en cas d'accident. Nous voulons beaucoup plus de régulation. Aujourd'hui, il n'y en a aucune au-dessus du 62e parallèle.
En 2003, Hurtigruten et quelques acteurs du secteur se sont rassemblés pour fonder AECO, l'association des opérateurs de croisières d'expédition. L'adhésion est volontaire, mais elle requiert de suivre de strictes régulations, tant sur l'opération des navires que le comportement des employés et des clients à terre. AECO compte aujourd'hui 30 adhérents. Daniel Sheldalm explique.
Nous ne voulons juste pas d'une activité qui nuise à notre ressource la plus importante. Ces communautés, la nature, la faune, la flore, parce que nous sommes ici en permanence, tandis que les autres peuvent partir ailleurs.
Hurtigruten et les membres d'AECO se sont fixés un nouvel objectif, supprimer le plastique à usage unique à bord des bateaux de croisière.
Dans la capitale hongroise, c'est le récent naufrage tragique d'une embarcation touristique qui a révélé la situation dangereuse sur le Danube. Le 29 mai dernier, un navire de croisière a percuté un petit bateau qui transportait des touristes coréens. L'embarcation a sombré en quelques secondes, bilan 28 morts. Une fois encore, le tourisme de masse sur le grand fleuve est pointé du doigt. Florence Labruyère nous appelle de Budapest.
Y a-t-il trop de navires de croisière sur le Danube? Ces hôtels flottants, qui font 135 mètres de long et dont chacun transporte des centaines de passagers, naviguent sur le Danube depuis l'Allemagne jusqu'à la Roumanie, en passant par l'Autriche, la Hongrie et la Serbie. Déjà l'an dernier, une étude de la Commission européenne sonnait l'alarme. Le trafic sur le Danube a augmenté de 90% entre 2002 et 2017. Et le nombre des bateaux de croisière a doublé depuis 2004. On en compte aujourd'hui près de 350. Ces grands navires ne se contentent pas de faire escale à Budapest. Ils effectuent des croisières nocturnes dans la ville pour faire admirer les monuments illuminés. Le problème est qu'ils sont en concurrence avec les petits bateaux-mouches de Budapest. Tous les soirs, entre 20h et 22h, des dizaines de navires, petits et grands, se croisent sous les ponts de la capitale hongroise. Pas de tour de contrôle, tout repose sur la communication radio entre les bateaux, une communication rendue difficile entre des équipages qui ne parlent pas la même langue. Un capitaine hongrois raconte avoir plusieurs fois frôlé la catastrophe. Il a demandé en vain aux autorités de limiter les croisières nocturnes. Il faut dire que l'État hongrois a un intérêt financier dans ses croisières. L'Office national du tourisme est copropriétaire du navire de croisière Viking Sijin qui a causé le naufrage du 29 mai dernier. D'un côté, l'État hongrois est censé assurer la sécurité de la navigation. De l'autre côté, plus il y a de croisières sur le Danube, plus il gagne de l'argent. Selon l'organisation Transparency International, ces éléments indiquent un possible conflit d'intérêts au niveau de l'État. Pour l'instant, un seul suspect a été mis en examen pour négligence criminelle, le capitaine du navire responsable de la collision.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre site RFI et sur Facebook.